journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, en France, la moisson du parti présidentiel qui reçoit le soutien de 72 maires et élus locaux, les Républicains. Mobilisation à Hong Kong contre le projet des autorités pro-Pékin d'autoriser des extraditions en Chine continentale. Les contestataires appellent à la désobéissance civile au Soudan, barricade de nouveau érigée dans les rues de Khartoum. Puis la face cachée du Globe, signée ce samedi Nadine Epstein, s'attarde entre autres sur les droits des femmes en Argentine. Le temps n'est plus aux querelles de chapelle et aux écuries présidentielles qui spéculent sur 2022, extrait de la tribune que publie dans les colonnes du journal du dimanche, 72 maires et élus locaux qui prennent leur distance avec les Républicains et affichent leur soutien au président de la République. Le temps ne serait plus aux querelles de chapelle, moyennant quoi ces femmes et hommes politiques tournent le dos à une écurie qui perd en pensant faire gagner une autre équipe, un autre collectif auquel il tresse des lauriers. Bonjour Manon de Verdet.
Bonjour.
Manon, la défaite aux européennes fait manifestement encore des ravages au sein de la droite traditionnelle.
Oui, et cette tribune en est bien la preuve. Elle s'intitule « La République des maires et des élus locaux ». Tous les signataires n'ont pas claqué la porte de LR, mais c'est bien le cas du maire d'Angers, Christophe Béchu, qui en est à l'initiative. C'est le cas aussi de l'ancien maire, François Goulard.
Nous faisons un constat, c'est que les réformes engagées par ce gouvernement vont dans l'ensemble dans le bon sens. Nous ne sommes pas forcément d'accord avec tout, mais il est nécessaire pour notre pays que le gouvernement réussisse. Aujourd'hui, bon, la conjoncture politique a changé. Les Républicains ne représentent qu'une toute petite minorité de l'opinion. Il est difficile dans ces conditions de prétendre à être une alternative ou un parti de gouvernement.
Mais pour d'autres comme Daniel Fasquelle, trésorier du parti Les Républicains, cette tribune risque d'accentuer encore la bipolarisation de la vie politique et finalement d'imposer le Rassemblement National comme unique force d'opposition au parti présidentiel. Un raisonnement insensé pour le député du Pas-de-Calais.
Ce n'est pas en quittant le navire, en quittant les Républicains, que l'on peut le mieux servir notre pays. Et on sera plus efficace, si on veut le succès du pays, dans une opposition qui obligera M. Macron à bouger sur un certain nombre de points, plutôt qu'à être une armée de béni-oui-oui, ce que souhaite finalement le gouvernement.
Un avis partagé par Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, qui pourtant a quitté le parti il y a quelques jours. Elle dit vouloir reconstruire, je cite, « une droite moderne ». Qu'ils aient signé ou pas cette tribune, les élus de la droite et du centre ont en tête les élections municipales dans un peu moins d'un an, au printemps prochain. Le parti d'Emmanuel Macron doit à tout prix, pour s'imposer comme une force politique pérenne, renforcer son ancrage local et le soutien de ces 72 élus expérimentés pourraient être très précieux.
Merci à vous Manon de Verdet. L'autre corps politique en difficulté, c'est la France Insoumise qui perd l'une de ses éminences grises en la personne de Charlotte Girard qui claque la porte d'un parti qui pêche par, je cite, le manque de débat en son sein, un parti désorganisé au contenu programmatique rédigé de manière chaotique. Fin de citation. Comme les Républicains et la France Insoumise, lutte ouvrière dont c'est la fête ce week-end n'aura pas brillé aux élections européennes du 26 mai dernier. Mais cette contre-performance ne semble pas atteindre une formation qui use des rendez-vous électoraux comme d'une tribune pour diffuser des idéaux révolutionnaires. 30 000 militants du parti d'extrême gauche sont attendus ce dimanche à Presles dans le Val d'Oise. Contre l'homophobie et la stigmatisation des habitants de la banlieue, première marche des fiertés cet après-midi à Saint-Denis. Pour l'occasion, la municipalité communiste qui soutient fortement l'événement a pavoisé la mairie et des passages piétons aux couleurs du drapeau arc-en-ciel. Massive la manifestation en cours à Hong Kong contre le projet des autorités pro-Pékin d'autoriser des extraditions vers la Chine continentale. Les détracteurs de ce texte soulignent les risques encourus par des populations à la merci d'un système judiciaire opaque et politisé. Bonjour Florence de Changy.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Hong Kong et surtout au cœur de cette manifestation à laquelle beaucoup de Hongkongais ont participé.
Absolument, c'est le point le plus important pour commencer, c'est cette participation record. On parlait il y a déjà une heure ou deux de 700 000 personnes sur 7 millions d'habitants qui sont à Hong Kong. Donc c'est de loin la plus grande manifestation jamais vue à Hong Kong depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997. C'est malgré tout une marche extrêmement pacifiste, bienveillante. Il y a toutes les générations et toutes les classes sociales. Il y a des bébés, il y a des gens en chaise roulante. Et bien sûr, on ne connaît pas encore le chiffre final. On parle même, certains experts, que ce soit 1 million, puisque la plus grande manifestation qui a eu lieu à Hong Kong par le passé, c'était 500 000 personnes en 2003. Et ça avait fait, ça avait forcé le gouvernement à renoncer à l'article 23 à l'époque. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le message est puissant et ce sera difficile à ignorer, impossible à ignorer pour la chef de l'exécutif et pour les parlementaires qui doivent discuter donc de cette loi mercredi au Parlement.
Merci à vous Florence de Changy et nos excuses aux auditeurs pour cette ligne difficile, mais on était au cœur d'une manifestation hongkongaise. Ce n'est pas le No 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 suivi de I Want My Money Back de Margaret Thatcher en 1979, mais il est question d'argent et de l'Union européenne et de Boris Johnson, candidat à la succession de Theresa May, démissionnaire après avoir échoué à négocier le Brexit. Bonjour Marina Daras en direct de Londres.
Bonjour.
Marina, l'ancien ministre des Affaires étrangères et favori pour la présidence des Tories, a parlé Brexit et portefeuille.
Et oui, hein, Boris Johnson a commencé sa campagne sur les chapeaux de roue. Hein, je le cite, les 39 millions de livres dus à l'Union européenne sont à nous et le resteront tant que nous n'obtiendrons pas un meilleur accord. Une stratégie certainement plus combative que celle de Theresa May et qui risque de mettre de l'huile sur le feu dans les relations entre le Royaume-Uni et Bruxelles. Des déclarations faites dans le Sunday Times ce matin, son premier entretien avec la presse depuis le lancement de sa campagne. Alors Boris Johnson y déclare également vouloir supprimer le filet de sécurité nord-irlandais et régler la question de la frontière irlandaise uniquement lorsque l'UE sera prête à convenir d'une future relation. Il compte également changer l'équipe de négociateurs, ce qui sous-entend qu'il demandera la destitution du fonctionnaire Oliver Robbins, alors que le temps sera fortement compté, puisque pour le candidat Johnson, la survie du Parti conservateur dépend de la sortie du pays de l'Union européenne, avec ou sans accord, le 31 octobre, une date que Boris Johnson ne compte pas renégocier. Alors le chouchou des Tories, qui a déjà reçu le soutien de plusieurs membres du cabinet de Theresa May, veut adopter une ligne dure sur le Brexit et un agenda de politique intérieure très conservateur pour, dit-il, unifier le pays.
Merci à vous, Marina Daras, en direct de Londres. Au Soudan, la coalition civile organise aujourd'hui une campagne nationale de désobéissance civile. L'action lancée par l'Association des professionnels accuse les putschistes au pouvoir d'être responsables du bain de sang du 3 juin et de la répression qui s'est poursuivie les jours suivants. Les leaders de la contestation ont appelé à la grève, à la reprise des barricades, des heurts avec les forces de l'ordre ont fait au moins un mort ce matin, selon le comité des médecins. Sébastien Nemeth de RFI est à Khartoum.
La désobéissance civile et la grève sont nos moyens pacifiques pour arracher notre droit à la vie, a déclaré l'association des professionnels. Alors que l'activité à Khartoum était réduite au minimum depuis le massacre du 3 juin, la capitale n'est que l'ombre d'elle-même aujourd'hui avec une circulation famélique, des magasins et administrations fermés, des transports publics à l'arrêt. À l'aéroport, des passagers attendaient avec leurs bagages en espérant un vol, alors que de nombreuses compagnies ont suspendu leur liaison avec Khartoum. Des incidents ont éclaté notamment à Barhi, où depuis une semaine, les habitants avaient installé des barricades. Ce matin, des manifestants ont de nouveau bloqué les routes avec des briques, des pneus, des pierres, des bouts de fer et des troncs d'arbres. La police anti-émeute est intervenue, notamment à coups de gaz lacrymogène. L'Alliance civile a demandé aux manifestants d'être prudents, de ne pas provoquer les forces de sécurité, de ne pas rester sur les barricades, mais de les reconstruire lorsqu'elles sont détruites. L'ALC a promis de poursuivre le mouvement jusqu'à ce que le pouvoir soit remis aux protestataires. Étant donné la crise économique qui frappe le Soudan depuis plusieurs années, aggravée par la situation sécuritaire et sociale, difficile de savoir combien de temps les Soudanais pourront tenir sans travailler.
Au Nicaragua, le Parlement adopte une loi d'amnistie en faveur à la fois des prisonniers politiques et des forces de la répression, paramilitaires compris. Colère de l'opposition dont fait partie Dolly Mora, porte-parole du mouvement étudiant.
C'est une évidence, nous ne reconnaissons pas cette loi. Pour nous, il ne s'agit pas d'une loi d'amnistie, mais d'une loi d'impunité. Elle a été envoyée d'urgence à l'Assemblée et est tout à fait contraire aux conventions américaines sur les droits de l'homme et à toutes les conventions internationales relatives aux droits de l'homme signées par le Nicaragua. C'est pratiquement une loi d'auto-amnistie en vertu de laquelle le gouvernement cherche à se laver les mains. Elle offre de fausses garanties aux auteurs de crimes contre l'humanité qui se trouvent dans les rangs de leur parti, dans les groupes paramilitaires, dans la police nationale et au sein de l'État, dans ce même pouvoir exécutif d'où émanent les ordres. Nous, Alliance civique, nous insistons sur le fait que l'idéal est que les accords clairement en faveur de la libération des prisonniers politiques commencent à être respectés. Mais nous ne reconnaissons pas cette loi.
Des propos recueillis par Patrick John Buff de RFI. Il est 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et La Face Cachée du Globe. Bonjour Nadine Epstein.
Bonjour à vous. 38 ans d'emprisonnement et 148 coups de fouet, cette peine la plus lourde jamais infligée à un défenseur des droits humains, vient d'être prononcée en Iran contre Nasrin Sotoudeh. Éminente avocate qui se bat contre le bafouement des droits des femmes dans son pays, Nasrin Sotoudeh attend maintenant dans sa cellule l'exécution de cette sentence, décidée à l'issue d'un procès peu équitable. Au Honduras, l'avortement est interdit en toutes circonstances. L'IVG est illégal, même en cas de viol et d'inceste, et même quand la vie de la mère et du fœtus sont en danger. Pourtant, selon un sondage, près d'une femme sur quatre au Honduras a été physiquement ou sexuellement abusée. Une autre enquête révèle qu'entre 50 et 80 000 avortements clandestins ont lieu chaque année, avec son lot de complications médicales, de décès et de risques pour ces femmes d'être condamnées à 6 ans de prison. En Argentine aussi, les femmes se battent pour avoir le droit d'avorter. Des manifestations ont eu lieu cette semaine à l'appel du mouvement Ni Una Menos. Le reportage de Caroline Vic.
Descendre dans la rue en Argentine, ce n'est pas nouveau. Que des femmes luttent et protestent, rien d'inédit non plus. Les maires de la place de Mai en pleine dictature faisaient déjà entendre leur voix. Non, ce qui a changé, c'est la prise de conscience d'un mal devenu invisible et banalisé qu'est la violence machiste. Ce jour-là, dans une marche pour les droits des femmes, se trouve Karina, 46 ans, membre du syndicat des travailleurs du métro de Buenos Aires.
La campagne pour l'IVG légale existe depuis longtemps. La rencontre annuelle des femmes depuis 1986. Le mouvement existait, mais pour les militants. Ni Una Menos l'a rendu massif et visible dans la rue à partir des féminicides. Et ensuite, ça s'est étendu à d'autres aspects de la vie et de la précarisation du travail des femmes au quotidien.
Cette éruption a touché en plein cœur la jeunesse. Paloma, 31 ans, est professeure dans un collège public. Pour elle, le changement des mentalités ces 5 dernières années a été radical.
On voit bien que les filles ont mis une limite. Elles se sont appropriées ce combat. Et aujourd'hui, le foulard vert symbolise l'avortement, mais plus seulement. Ça représente beaucoup d'autres droits. Et faire la conquête de l'avortement, c'est une manière de mener une bataille et de la gagner. Donc ce foulard vert et le droit à l'avortement est devenu un signe de liberté.
Plus qu'une marche ou qu'une revendication, il s'agit d'une véritable bataille, d'un combat, d'une insoumission collective, comme elles disent. Marta Dichon, membre de Ni Una Menos.
On est en train de bouger des structures très ankylosées. L'Église catholique, par exemple, a un énorme poids dans ce pays. Donc on ne va pas changer du jour au lendemain. Mais on constate que les choses se sont accélérées, que les femmes analysent leur passé, qu'elles voient comment elles ont été élevées et quelle éducation reçoivent leurs enfants à l'école. Tout ça est en train de se passer et pour nous, c'est révolutionnaire.
Et malgré l'opposition de secteurs de la société plus conservateurs, petit à petit, la sensibilisation augmente, l'information se multiplie et surtout le débat est installé dans la société argentine et dépasse les frontières. On en parle, on y réfléchit et c'est bien là que réside cette nouvelle révolution latino-américaine.
Caroline Vic à Buenos Aires. Manifestation sans précédent depuis la révolution de velours en 1989 à Prague. Des dizaines de milliers de Tchèques sont descendus dans les rues de la capitale pour réclamer la démission du Premier ministre. Andrej Babiš, à la tête du gouvernement depuis 2017, est soupçonné de conflit d'intérêts. Éric Bégala.
La manifestation de mardi à Prague est la plus importante et la dernière en date contre le Premier ministre Andrej Babiš, mais ce n'est certainement pas la dernière. Depuis le début avril, en fait, les Pragois se sont régulièrement réunis dans la rue pour exiger la démission de l'oligarque devenu Premier ministre. Ce qu'il lui reproche, sa corruption, de plus en plus évidente. En avril, c'était déjà une affaire de détournement de subsides européennes qui avait jeté plusieurs dizaines de milliers de Pragois dans la rue. Le conglomérat d'Andrej Babiš ayant bénéficié d'une subvention européenne indue de 2 millions d'euros, la police avait annoncé vouloir poursuivre le Premier ministre. Mais le parquet général de Prague n'a toujours pas lancé la procédure. Il faut dire que Babiš avait opportunément remplacé son ministre de la Justice par un affidé qui s'est bien gardé de lancer quelques poursuites que ce soit. La semaine dernière, c'est un audit préparé par la Commission européenne et qui a fuité dans la presse, qui a jeté cette fois plus de 100 000 personnes dans la rue. Bruxelles considérait dans cet audit que le groupe d'Andrej Babiš a perçu 17 millions d'euros de subventions indues depuis 2015 et en demanderait la restitution. En réponse, Andrej Babiš a tonné que, je le cite, « jamais la République tchèque ne rembourserait l'Union » et, cela va sans dire, Andrej Babiš, personne privée, n'a pas envisagé une seule minute de restituer les 17 millions à l'État tchèque qui, opportunément gouverné par Andrej Babiš, Premier ministre, ne risque pas de lui demander quoi que ce soit.
D'après le magazine Forbes, Andrej Babiš est à la tête de la deuxième fortune du pays avec 3,7 milliards de dollars d'actifs. Merci de nous suivre. Bonne journée.
Merci à vous, Nadine Epstein. Quelques mots de la météo pour refermer cette édition. Temps instable avec des passages d'averses et de nombreux orages sur l'est du pays. Température maximale comprise entre 15 et 29 degrés en bord de Méditerranée. Cette édition a été préparée avec Benjamin Ducy à la technique. Jean-Frédéric